9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, 2 heures d'information, médias et culture au sens large. Les médias, c'est également les réseaux sociaux et vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le compte E1 Culture Média. Culture au singulier, médias au pluriel. Alors, il y aura le journal des médias évidemment, le journal de la culture, ce sera à 10h, des conseils de films et de comédies musicales et des invités. D'abord, 2 stars des séries quotidiennes qui réunissent des millions de téléspectateurs chacune. Linda Hardy pour Demain nous appartient, c'est sur TF1, et Valérie Carcenti pour Scène de ménage sur M6, la comédienne qui est également la présidente du jury du Festival de La Rochelle qui débute demain. Et demain, c'est également la sortie de Jeanne, le nouveau film de Bruno Dumont, réalisateur plusieurs fois primé à Cannes, un film extraordinaire à tous les sens du terme. Vous entendrez, il n'y a que des acteurs amateurs et Fabrice Luchini. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, c'est une pro. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous.
Lui aussi c'est un pro. Bonjour Pierre Desereau de Pure Média. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé hier soir? Ce sont les audiences.
Ce sont les audiences, absolument.
Ah oui, tant mieux, vous aviez oublié. Vous étiez là pour ça, mais le gars, il oublie.
Non, j'avais tout oublié. Hier soir, c'est encore une fiction française. Hein. Vous parliez de l'essor de la fiction française dans ce studio.
Exactement, hier, dans l'infomédia.
Absolument. Et donc, c'est TF1 qui a été la chaîne la plus regardée, avec le téléfilm Jamais sans toi, Luna, avec Alice Taglioni et Rod Parado. Et ce téléfilm français, adapté de l'histoire vraie d'un couple qui a perdu la garde de sa fille malade, a été suivi par 3 600 000 personnes, 18,2% du public. M6 est deuxième avec un bon score, un nouveau numéro de son blockbuster patrimonial L'amour est dans le pré, l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand. Une nouvelle fois, le public a répondu présent puisque l'émission a pu compter sur 3 200 000 fidèles, 16,3% de part d'audience.
C'est quasiment à touche-touche et faut le battre, L'amour est dans le pré. Hein. Bravo à TF1.
Exactement, sur la troisième marche du podium, un peu plus loin, on retrouve France 2 avec le final de sa série française À l'intérieur avec Béatrice Dalle. Cette ultime soirée a été suivie par 2 500 000 personnes, 12,5% du public. Enfin, France 3 est au pied du podium avec une rediffusion du film pas si vieux mais déjà culte, Les Enfants du Marais, avec Jacques Villeray, Jacques Gamblin et Michel Serrault. 1 500 000 cinéphiles sur la 3, 7,4% du public. Et du côté des autres chaînes, pas grand monde puisqu'aucune ne dépasse les 900 000.
Alors on va revenir vers les millions, un chiffre à retenir Pierre?
Un chiffre à retenir, plusieurs ce matin. Du côté des feuilletons, puisque vous recevez Linda Hardy de Demain nous appartient et Valérie Carcenti de Scène de ménage. Scène de ménage a toujours un très gros carton sur M6, 3 900 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience. C'est toujours la fiction quotidienne la plus suivie. Pour Demain nous appartient, c'est moins bien. En revanche, 3 100 000 téléspectateurs, 18% du public. Demain nous appartient sur TF1, battu par Nagui. Nagui qui proposait les Masters de N'oubliez pas les paroles. 3 500 000 personnes, 20,1% du public. Et un dernier chiffre à vous signaler, Philippe. C'est un record d'audience historique en début d'après-midi pour Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard sur France 2. 1 058 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience.
Merci beaucoup Pierre Desereau, à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Le journal des médias maintenant avec vous, Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes.
Et Cyril, vous débutez en soufflant les bougies de Femmes Actuelles.
Oui, l'hebdomadaire fête cette semaine ses 35 ans et pour l'occasion, il met à l'affiche 35 femmes remarquables. Christiane Taubira, Chantal Thomas, Anne Sinclair, Carla Bruni, Delphine Ernotte, Elisabeth Badinter pour n'en citer que quelques-unes. Femmes Actuelles va consacrer les 5 prochaines semaines à ses grandes témoins, féministes convaincus. Julien Lamurie de Sauvage, le rédacteur en chef de Femmes Actuelles.
C'est un garçon.
C'est un garçon. Il nous raconte comment s'est fait le casting. Il est interrogé par une fille, notre journaliste Louise Bernard.
Occasion un peu de se replonger dans l'histoire du titre, de constater l'évolution de la condition féminine sur les 35 dernières années. Donc on a voulu incarner ça par 35 femmes, 35 portraits. Ce sont des femmes qui se sont imposées dans des univers qui étaient parfois plutôt masculins et ou dans des univers où on ne les attendait pas spécialement, où elles ont dû un peu se battre pour faire leur place.
35 ans, c'est un bel âge, mais comment rester up-to-date? Comment rester dans le coup? Si Femmes Actuelles est diffusée chaque semaine à plus de 530 000 exemplaires, ce chiffre baisse année après année, comme souvent aujourd'hui dans la presse écrite. Julien Lamurie de Sauvage nous explique comment rester à la page.
On se renouvelle en restant attentif aux attentes des femmes, à leurs préoccupations, à l'évolution de leurs préoccupations, en les rencontrant régulièrement et en étant vraiment très attentif à ce qui est pour elles essentiel dans leur vie quotidienne.
35 femmes, donc pour les 35 ans de femmes actuelles, c'est à partir de cette semaine. Et puis un tout autre sujet, Cyril, pour poursuivre, les jeunes et la pornographie. Ce n'est malheureusement plus un phénomène nouveau, mais le travail de sensibilisation reste très important et France Télévisions va bientôt y consacrer toute une soirée.
Une fiction, un documentaire et un débat, France 2 a décidé de s'investir pleinement dans ce nouveau rendez-vous thématique intitulé « Pornographie, un péril pour les jeunes ». La soirée présentée par Julien Bugier, commencera par Connexion Intime, un téléfilm de 90 minutes qui raconte l'histoire de trois lycéens et la manière dont le porno s'est immiscé dans leur quotidien. Alors j'ai demandé à Anne Holmes, la directrice de la création de France Télé, quel rôle jouent aujourd'hui les réseaux sociaux dans la disparition de la pudeur.
Ils ont tout changé, enfin on en parle aussi beaucoup sur les likes, se mettre en scène, se mettre en avant, se montrer. Et ça paraît anodin pour eux de faire une photo de leur sein ou de leur sexe, mais c'est quand même quelque chose de l'ordre de l'intime et ils n'ont plus la différence entre l'intime et le public.
Je signale au passage que le téléfilm Connexion Intime est sélectionné au Festival de la Fiction de La Rochelle, dont vous reparlerez dans quelques instants avec la présidente Valérie Carsenti.
Et après la fiction, place au réel avec la diffusion du documentaire Pornographie, un jeu d'enfant.
Smartphone, tablette, ordinateur et objets connectés. À l'ère de l'Internet illimité, la pornographie n'a jamais été aussi accessible. En France, c'est en moyenne à l'âge de 10 ans qu'un enfant est exposé aux images du X. Volontairement ou accidentellement, sans le moindre filtre.
Le film montre le témoignage de plusieurs ados qui racontent leur expérience avec la pornographie, comment ils sont arrivés sur ce genre de site, ce qu'ils regardent et bien entendu, comment cela influe sur leur relation avec l'autre. La réalisatrice du documentaire, Anne-Marie Avouac, nous explique comment s'est passée sa rencontre avec les adolescents.
Ça a été un travail de plusieurs mois en fait pour rencontrer ces jeunes, ces ados, ces parents. Ils m'ont tous parlé très librement de la pornographie. Ils en avaient tous vu. Il n'y en a pas un seul qui n'avait pas vu de film porno. Ensuite, je les ai revus un par un. Là, on était seuls et j'ai commencé à discuter avec eux. Alors, je ne leur posais pas toutes les questions pour qu'il reste un petit peu de spontanéité au moment du tournage. Et là, certains m'ont dit « Moi, je veux bien vous parler, mais je souhaite rester anonyme ». Donc les jeunes qu'on voit dans le film sont anonymisés, ils ont des accessoires, il y a une lumière qui est assez travaillée. Et d'autres ont souhaité parler librement à visage découvert.
Ce film documentaire est aussi l'occasion de découvrir le travail que mène la gendarmerie auprès des enfants confrontés à la pornographie sur Internet, parfois sans du tout avoir eu l'intention d'en regarder. On écoute un extrait entre une jeune fille et l'adjudante Ingrid Lefrère, qui travaille pour une brigade spéciale de la gendarmerie de Nîmes.
Je vais t'expliquer, Lila. Moi, dans le cadre de mon travail, j'ai la possibilité d'après de récupérer ces photos. Parce que le problème, c'est que quand on met des photos sur Internet, elles appartiennent à qui, d'après toi ?
À tout le monde.
À tout le monde. Et est-ce qu'elles s'effacent, ces photos ?
Je sais pas.
Tu t'es posé la question ? Tu vois, ces photos, une fois qu'on les publie, elles peuvent être partagées par les autres, etc., etc. Donc moi, c'est pour ça que je te pose ces questions, parce que je vais faire en sorte de les retrouver, ces photos, pour les enlever.
Et pourtant, malgré ce genre de mise en garde, les ados échangent de nombreuses photos dénudées, par exemple via les messageries éphémères comme Snapchat, oubliant que rien ne disparaît sur Internet. Écoutez ce témoignage de Valentine, 15 ans.
J'envoyais des photos, des vidéos, et j'étais jamais toute nue. Il y a des vidéos où je me masturbe, je me touche, mais ça va pas plus loin non plus. Je les envoie à des copains en qui j'ai confiance, en général avec qui je suis depuis pas mal de temps. Et je les envoie parce que je sais que ça leur fait plaisir.
La date de diffusion de cette soirée continue sur France 2 n'est pas encore officielle. Elle devrait a priori se situer dans la deuxième quinzaine d'octobre. Culture Média ne manquera pas de vous en reparler.
Et pour terminer, un retour pour 2022.
Une ambition intime, version politique, sera de retour sur M6 pour la présidentielle de dans 3 ans. Après Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Alain Juppé, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, François Bayrou et Arnaud Montebourg, qui viendra confier ses petits secrets à Karine Le Marchand. On se souvient qu'en 2017, François Fillon avait beaucoup profité de son passage dans l'émission pour largement emporter la primaire de la droite.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière, vous n'attendez pas 2022, on se retrouve demain.
Absolument.
Europe 1. L'infomédia du jour, c'est dans un instant, on s'intéresse à une nouvelle initiative lancée par la BBC qui s'associe aux réseaux sociaux et à Google pour lutter contre les fake news. On en parle avec Philippe Vandel et ses invités juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et dans l'infomédia du jour, Philippe, on parle de la lutte contre les fake news.
Effectivement, les médias déclarent la guerre aux fake news. La prestigieuse BBC a lancé une initiative pour lutter contre la désinformation, pas toute seule. Elle a rassemblé avec elle une dizaine de grands titres internationaux, dont l'AFP, mais également l'Union Européenne de Radiodiffusion, le Financial Times, pardon pour l'accent, le Wall Street Journal, CBC Radio-Canada, de Reuters, du Reuters Institute, ainsi que les géants du numérique, des géants du numérique, Facebook, Google, Microsoft, excusez du peu. Pour en parler, je reçois Grégoire Lemarchand. Bonjour.
Bonjour.
C'est le matin, vous êtes chef de la cellule fact-checking à l'AFP et le journaliste Thomas Huchon. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes l'un des premiers pisteurs de fake news, notamment via le site Spicy. Question à Grégoire Lemarchand, je le rappelle, vous occupez du fact-checking à l'AFP. En quoi consiste ce front commun contre les fake news, puisque vous y êtes associé, quels outils avez-vous en commun ?
L'idée, c'est vraiment de se dire que les médias courent toujours derrière la désinformation, que lorsqu'on entend combattre la désinformation, finalement, il n'y a plus vraiment de concurrence. Il n'y a pas de scoop à débunker, à démystifier quelque chose. Mais on voit que ces dernières années, le débat démocratique est souvent un peu pourri, vicié, que la désinformation peut avoir des conséquences très graves dans la vie réelle. On l'a vu en Inde, où il y a eu des lynchages à la suite de rumeurs de kidnapping véhiculés via WhatsApp. Donc quand on parle de ces choses-là, on pense qu'il y a intérêt à collaborer entre médias et à partager des savoir-faire, des informations, lorsque vraiment la désinformation, parfois elle est anecdotique, mais parfois elle peut avoir des conséquences très graves, encore une fois, sur le débat public, notamment dans des périodes d'élection, mais aussi, comme je vous disais, dans la vie réelle, sur la santé des gens, sur même leur intégrité physique. Donc l'idée, c'est de se mettre ensemble et de partager nos savoirs, de tenter des choses, d'expérimenter et finalement de faire en sorte qu'on n'ait pas toujours l'impression de courir derrière les informations. Vous savez, c'est un peu comme la lutte contre le dopage. On a toujours l'impression que les gens qui se dopent ont toujours des techniques d'avance. Ouais. Donc comment on peut faire pour que couper au plus tôt la viralité de la désinformation ?
C'était justement la question que j'allais vous poser. Concrètement, comment pouvez-vous faire ?
C'est de se réunir, c'est de se voir souvent et c'est de dire par exemple sur tout le pan technique, il y a certainement des Media Labs à la BBC, à l'AFP, ailleurs, dans d'autres médias, chez Reuters. C'est de se dire, on entend beaucoup parler des deepfakes, j'imagine que vous en avez parlé dans cette émission.
On va en parler tout à l'heure des deepfakes.
Voilà. Comment on peut faire pour pas tomber dans le piège des deepfakes ? On sait que c'est sophistiqué, que ça peut faire... Ça peut avoir beaucoup d'effets, qu'aujourd'hui, les gens, parfois, ont tendance à croire des choses assez grossièrement manipulées. Mmh. Donc, qu'est-ce qui va en être quand les choses seront très techniquement avancées ? Donc, est-ce qu'on ne peut pas, tous ensemble, essayer de trouver, des outils, des standards communs, par exemple, sur les deepfakes, pour les détecter le plus vite possible ?
Quand vous dites tous ensemble, c'est-à-dire qu'il y aurait quoi ? Une sorte de réunion informelle virtuelle, comme, j'imagine, les polices se réunissent dans Interpol en se parlant, en échangeant des infos tous les jours à 18h. Enfin, j'ai dit 18h au pif, hein.
Oui, ça peut être ça, et c'est vraiment quand on travaille sur des outils techniques, l'AFP a toujours été en pointe, notamment pour travailler sur les manipulations de l'image, comment on peut échanger nos savoirs à la fois avec nos partenaires médias, mais aussi effectivement, vous y faisiez allusion tout à l'heure, avec les GAFA.
Alors vous êtes chef de la cellule fact-checking à l'AFP, vous êtes combien et comment vous travaillez ?
Aujourd'hui, on est près d'une cinquantaine de journalistes dans le monde, spécialisés dans le fact-checking, la vérification. On est partout dans le monde, c'est-à-dire que l'AFP est une agence mondiale dont nos fact-checkers ils sont partout dans le monde, ils sont dans tous les continents.
D'un mot, pour qu'on voit la proportion, vous avez combien de journalistes dans le monde ?
On a aujourd'hui un peu plus de 1500 journalistes.
1500, dont 50 dédiés au fact-checking.
Absolument.
Alors comment travaillent-ils ?
Eh ben, déjà, on travaille en 8 langues. Donc je vous ai dit, sur tous les continents, en Asie, en Afrique. Et ce sont des journalistes locaux qui connaissent l'écosystème médiatique local, qui connaissent les spécificités, les langues, comment ça marche sur les réseaux sociaux. Il y a certains pays, c'est très Twitter, d'autres c'est plus Facebook, d'autres c'est plus WhatsApp. Et finalement, c'est en suivant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui peuvent véhiculer de la désinformation, essayer de la repérer la plus vite, justement, et puis écrire, dire pourquoi c'est faux, pourquoi c'est un mélange de vrai et de faux, et d'écrire dessus pour justement essayer de contrecarrer la viralisation de la désinformation.
Au niveau mondial, quels sont les thèmes les plus ciblés ?
C'est souvent les mêmes, donc on a beaucoup de choses sur la santé. On vous vend des remèdes miracles un peu partout dans le monde. Et c'est aussi, la haine de l'autre, finalement. C'est-à-dire beaucoup les migrants, l'autre, c'est-à-dire la religion minoritaire dans un pays, c'est vraiment la cible numéro un de la désinformation.
On l'a vu en banlieue avec des Roms, soi-disant une camionnette Rome qui enlevait des enfants, qui n'a jamais existé, mais qui a donné lieu à des expéditions punitives.
Oui, et ce qu'on a vécu en France et qui est déjà assez grave, je le disais tout à l'heure, en Inde, ça a vraiment eu des conséquences dramatiques, puisque des gens, j'allais dire, qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, pardonnez-moi, se sont fait lyncher dans des villages en Inde, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi des urbains venaient kidnapper des enfants dans les villages.
Événement parisien qui est devenu français, qui est devenu mondial, l'incendie de Notre-Dame. Là aussi, vous dites qu'il y a eu des fake news.
Il y a eu beaucoup de choses et c'est intéressant de voir que le soir même de l'incendie, finalement, quand on regardait un petit peu les réseaux sociaux francophones, voilà, il y avait la stupéfaction, mais on ne parlait pas encore d'un incendie volontaire ou un attentat, etc. Et c'est arrivé très vite le lendemain et ce qu'on s'est rendu compte, alors c'est notre observation, il n'y a pas d'observation scientifique, mais que ça venait finalement d'outre-Atlantique via l'alt-right, enfin l'extrême droite américaine, qui via des comptes plutôt anonymes mais retweetés par des comptes très influents de l'extrême droite aux États-Unis ont donné de l'écho et de l'audience à des théories assez fantaisistes, comme peut-être vous vous souvenez, quelqu'un en gilet jaune sur une des tours de Notre-Dame qui faisait je ne sais quoi, et finalement c'était juste un des responsables des pompiers.
Vous savez quoi, j'ai même vu la photo. Mais justement le problème de la fake news, c'est la légende sous la photo. Une photo ne veut rien dire sans la légende. Mais j'ai vu ce type évidemment avec son gilet jaune. Thomas Huchon, vous avez travaillé justement à Spicy sur Notre-Dame. Qu'avez-vous découvert ?
Mais ce qu'on découvre en fait quand on s'intéresse à n'importe quel grand événement mondial, c'est qu'aujourd'hui la population vit des réalités absolument différentes. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez fait sur vos différents réseaux sociaux dans les années précédentes, eh ben on va vous montrer quelque chose de totalement différent. Nous, on s'est livré à une petite expérience durant les élections européennes. On a créé 6 faux profils Facebook qui étaient animés par des étudiants journalistes de l'école de Sciences Po. Et chacun de ces étudiants campait une couleur politique. Qu'on avait un gilet jaune, un Rassemblement National, un Parti Socialiste Génération un peu bizarre, on ne savait plus trop qui était qui, les Insoumis, voilà. Et en gros, ces 6 étudiants, au moment de Notre-Dame, ils ont vécu 6 semaines, une semaine totalement différente. Chez les Gilets jaunes, c'était un coup de Macron. Chez Macron, c'était un coup des Gilets jaunes. Chez le Rassemblement National, c'était un coup des musulmans.
Vous voulez dire que les messages qui leur arrivaient étaient ciblés ?
C'est-à-dire que les algorithmes des réseaux sociaux faisaient remonter des contenus que les réseaux sociaux estimaient pertinents pour l'utilisateur. Le réseau social, finalement, il s'en fiche que vous soyez de gauche ou de droite, ou que vous soyez un mec d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ça ne l'intéresse pas.
Ce qu'il veut, c'est qu'on reclique.
Ce qui compte, c'est de rester sur la plateforme. Et pour rester sur la plateforme, ils vont essayer d'utiliser plutôt vos émotions que votre intelligence. Et c'est là-dessus que, dans le combat contre les fake news, contre la désinformation, les journalistes professionnels sont totalement désavantagés. L'émotion, ça joue beaucoup plus que l'intelligence. Si vous voyez quelque chose de choquant, vous allez cliquer tout de suite. Quelque chose d'un peu rébarbatif sur la réalité des vaccins, je ne suis pas certain que vous cliquez.
Mais alors, votre expérience auprès de Facebook amène une question que je voulais poser un tout petit peu plus tard. Je vous la pose maintenant, Grégoire Lemarchand. Dans l'initiative de la BBC, est associé notamment Facebook. Donc ils sont à la fois juges et partis. Ils vont faire du fact-checking de leur propre site.
Alors, ils ne vont pas faire du fact-checking, ils ne sont pas des journalistes. Voilà. En revanche, ils ont la volonté d'essayer de faire en sorte que leur plateforme soit peut-être un petit peu plus saine. En tout cas, nous, à l'AFP, et c'est le cas d'une cinquantaine de médias dans le monde, et puis aussi d'un certain nombre de médias en France, comme les Décodeurs du Monde ou Check News de Libération, nous, on travaille déjà depuis bientôt 2 ans avec Facebook qui reprend nos contenus de vérification, de fact-checking et qui les met sur la plateforme. C'est-à-dire si vous, Philippe, vous partagez une photo, vous décontextualisez, c'est-à-dire une légende qui n'a rien à voir avec la réalité, si nous, l'AFP, on a dit attention, ce contenu est faux, vous allez avoir un avertissement vous invitant à lire le fact-checking de l'AFP qui vous explique pourquoi c'est faux. Donc il y a déjà un premier effort de fait.
Europe 1. Les médias font front commun avec les réseaux sociaux pour lutter contre les fake news. On continue à en parler dans Culture Média sur Europe 1.
Heures, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans l'info média du jour, on parle de la lutte contre les fake news. Philippe Vandel avec vos invités, le chef de la cellule fact-checking de l'AFP, Grégoire Lemarchand, et Thomas Huchon, journaliste à Spicy.
Oui, je le disais, la prestigieuse BBC a lancé une initiative mondiale pour lutter contre la désinformation avec l'AFP, le Financial Times, le Wall Street Journal, Facebook, Google, Microsoft, Radio-Canada, l'agence Reuters, beaucoup de choses. Thomas Huchon, vous êtes journaliste sur Spicy, qui est un média 100% vidéo. Vous avez consacré de nombreux reportages aux conspirationnistes. Est-ce que vous êtes convaincu par ce genre d'initiative ?
Mais je crois que la situation est tellement grave qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce genre d'initiative. C'est-à-dire que ce que disait Grégoire est très intéressant, c'est que les journaux sont tous en concurrence. Vous êtes en concurrence avec d'autres radios, Spicy en concurrence avec d'autres sites. Mais il y a des questions sur lesquelles cette concurrence ne doit plus jouer. Ces questions, c'est ce qu'on va appeler finalement le tronc commun, ce qui va nous permettre de débattre, ce qu'on va mettre sur la table, ce qui sont les faits. L'information. Aujourd'hui, l'information, elle est tellement disruptée par tout un tas de choses. On a parlé des réseaux sociaux, on peut parler des gens qui veulent vraiment faire de la désinformation, on peut parler des populistes qui, dans tous les pays, utilisent cette arme du mensonge comme un argument électoral permanent. Je crois qu'on ne peut pas vraiment faire l'impasse. Et ensuite, que vous avez tiqué un petit peu à l'évocation que Facebook, Google soient présents dans ces discussions. Vous savez ce que je pense de ces entreprises-là, mais je ne les porte pas dans mon cœur, c'est peu de choses de le dire. Mais je crois que de la même manière, aujourd'hui, on ne peut plus essayer de travailler sur Internet sans discuter au minimum avec ces gigantesques entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire ce qu'elles veulent, au contraire, mais ce n'est pas du tout ce que fait l'AFP et les journaux français. D'ailleurs, parce que dans le contrat qu'ils ont avec Facebook, par exemple, Facebook voulait choisir eux-mêmes les thèmes qu'allaient couvrir les journaux français. Les journaux français ont dit non, nous choisirons les sujets que nous allons débunker. Et donc, je crois qu'il y a une espèce de rapport de force à installer, y compris avec la fake news, ça c'est sûr, mais aussi avec ces géants du net. Ces géants du net, il ne faut pas qu'ils s'exonèrent complètement de nos lois, de nos principes citoyens. Et je crois que c'est une manière aussi de les contraindre, c'est d'arriver à discuter avec eux.
Vous deux, vous êtes des spécialistes, mais ça gagne aussi le mainstream, si j'ose dire, pardon pour l'anglicisme. Depuis quelques mois, les chaînes de télé françaises et leur JT se sont lancées dans la course pour traquer ces fausses nouvelles. La preuve.
Ce soir dans le journal, ne ratez pas Factuel, notre nouveau rendez-vous. Chaque semaine, nous allons remonter le fil des fausses informations, qui les propagent, dans quel but et comment les détecter. Nous vous donnerons toutes les clés.
Comment combattre les rumeurs, les manipulations, les infox, à l'heure où elles se propagent à une vitesse folle sur le net? Nous allons à présent consacrer une rubrique à cette mission. Ce sera faux et usage de faux.
Bonjour à tous, vrai ou fake, épisode 1, manipulation. Hoax, fake news, intox, fausse info, c'est tout cela qu'on va combattre dans cette émission pour faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux en matière d'information.
Tout de suite sur France 4, YouTube est-il vraiment votre meilleur ami? C'est vrai qu'on y trouve énormément d'infos, mais c'est pas parce que c'est sur YouTube que c'est forcément vrai. Donc nous, on va vous aider à faire le tri, ça se passe dans Escape News.
Pourquoi ce montage vous fait sourire et hocher la tête, Thomas Huchon ?
Écoutez, vous savez, avec Grégoire, ça fait très longtemps, dans nos petites chapelles respectives, que nous travaillons sur ces questions.
Ouais.
Et donc, je crois qu'on ne peut que... À la fois, c'est terrifiant de se dire que notre société a basculé à ce point que tous les médias soient obligés d'aller faire de la déconstruction de mensonges. Et en même temps, ça veut dire que, quelque part, on avait identifié un phénomène un petit peu avant les autres et qu'on voulait travailler dessus. Je crois que ça a des conséquences terribles et que, oui, ça nous fait sourire, mais que c'est finalement... Ça dit quelque chose de terrible sur notre société, mais finalement, ça sera quand même l'occasion de lutter un petit peu plus.
J'ai retrouvé un sondage de l'IFOP de 2018 qui disait que les Français étaient de plus en plus sensibles à la théorie du complot. 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot. Alors, suivant les cas, ils sont majoritaires à rejeter la thèse officielle du 11 septembre, la thèse officielle sur l'origine du sida, sur les attentats de Charlie Hebdo, et le chiffre qui m'a vraiment frappé, 9% des Français pensent que, contrairement à ce qu'on nous apprend, à ce qu'on nous dit dans les JT, la Terre ne serait pas ronde mais plate. 9%. Et il y a encore pire qui arrive, il y a le deepfake, c'est-à-dire les vidéos trafiquées. Jean-Pierre Montanet, le rédacteur chef de l'émission, m'a fait découvrir une vidéo de Maba qui traite Trump de sombre merde. Mmh. Vous avez vu cette vidéo ?
Oui, bien sûr. Ouais.
Alors racontez, qu'est-ce que le deepfake ?
Grégoire,
parce que vous disiez que c'était très... J'aimerais mieux entendre Grégoire. Ah bon, non, Grégoire est en train de tousser. Mais vous disiez que c'était très très grave le deepfake, j'aimerais mieux vous entendre là-dessus.
Très grave. Disons que le potentiel est assez fantastique, donc peut servir à des intérêts fait pour nuire au débat démocratique. Aujourd'hui, vous parlez de cette fameuse vidéo d'Obama. Je vous invite aussi à voir une chaîne sur YouTube qui s'appelle Control Shift Face, où quelqu'un prend des très très grands films comme Shining et remplace la tête de Jack Nicholson par celle de Jim Carrey. Je vous assure que c'est incroyable. On ne voit pas la différence. On a vraiment l'impression que c'est Jim Carrey qui est dans le film. Donc, le potentiel est énorme et on peut faire dire finalement n'importe quoi à n'importe qui.
J'explique, deepfake, c'est la contraction de fake, donc le faux, et de deep learning, qui est la forme la plus aboutie de l'intelligence artificielle. Le visage d'Obama truqué avec des outils numériques, comment lutter, comment se rendre compte que c'est faux?
Justement, c'est sur ce coin on travaille. Il y a encore quelques mois, il y avait quelque chose pour détecter les deepfakes, c'est que les gens ne clignaient pas des yeux lorsqu'on voyait la fausse vidéo. Donc, sachant qu'un humain cligne, je ne sais pas, tant de fois par minute, aujourd'hui, ils ont trouvé la parade pour ça. Donc, il va falloir trouver d'autres parades.
Thomas Huchon.
Je crois que ça va devenir très très difficile quand les deepfakes vont se généraliser, parce que la première fois qu'on a vu cette fameuse vidéo de Barack Obama, où c'est Jordan Peele, le comédien, qui singe Barack Obama, on a tous cru que c'était vraiment Barack Obama qui parlait. En tout cas, pendant quelques secondes, ça a été un impact très fort. Et je crois qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que même si on vient vous expliquer que quelque chose est faux, si vous y avez cru un petit peu, si l'image s'est imprégnée dans votre cerveau, il y a quelque chose qui en reste. Et c'est justement ça la vraie problématique demain, c'est comment est-ce qu'on va réagir à toutes ces images trafiquées qui vont nous être imposées.
Et moi, je crois que ce que vous dites est vrai. Merci Grégoire Lemarchand, vous êtes chef de la cellule fact-checking à l'AFP. Merci à Thomas Huchon, journaliste, l'un des premiers pisteurs de fake news, notamment via le site Spicy.
Merci.
Europe 1. Nos invités médias arrivent, on va parler de l'actualité de deux comédiennes, Valérie Carcenti et Linda Hardy. Elles sont les invitées de Culture Média et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et on passe, Philippe Vandel, à la partie interview de Culture Média.
Et oui, aujourd'hui, je suis ravi de recevoir deux figures des séries quotidiennes, chacune dans leur genre, chacune sur sa chaîne, mais pas seulement. Bonjour Valérie Carcenti.
Bonjour.
Bonjour Linda Hardy.
Bonjour.
Vous ne connaissiez pas?
Non.
Non. Non,
comme ça.
On n'a jamais, moi j'ai toujours rêvé de, wow. Non, c'est vrai, de travailler avec Valérie.
C'est
pas
vrai.
Je l'ai pas rencontrée, mais je l'ai en tout cas vue dans plein d'autres choses que scène de ménage, en tout cas.
Ah bah
mais
tiens, justement,
c'est sympa,
je vais dire,
je commence bien ma journée.
Pareil.
Adorable.
Je vais commencer par vous, Valérie Carcenti. Vous serez la présidente du jury du Festival de la fiction de La Rochelle qui débute demain à La Rochelle. Donc, on va en reparler. On vous a connu moliérisé. Vous avez joué, par exemple, Le Roi Summer avec Michel Bouquet. C'est peut-être là que Linda Hardy vous a vu. Ou dans la série Maison Close sur Canal+. C'est là où je vous ai vu, elle aussi, Linda Hardy aussi, on vous a vu en Mère Mackerel dans Maison Close. Question très simple et basique. Pourquoi avez-vous accepté de jouer dans une série quotidienne comique sur une chaîne de télé?
Pour plein de raisons. D'abord parce que la comédie, c'est une liberté pour moi. C'est un champ de liberté absolue. C'est un personnage, elle est folle. C'est un clown. Donc ça, je ne pouvais pas passer à côté. Et puis ensuite, très honnêtement, je ne me rendais absolument pas compte des conséquences positives et négatives que pouvait avoir une série quotidienne.
Positive, ça marche bien.
Positive, c'est merveilleux. Moi, ça a changé ma vie. C'est une popularité, c'est une ouverture sur beaucoup d'autres projets. C'est génial.
Et négative?
Négative, c'est que vous êtes un petit peu trop visible. Donc voilà, ça a des conséquences. Après, il faut gérer. C'est pas très grave non plus.
Même question pour Linda Hardy. On vous a découverte comme Miss France en 92. Vous êtes devenue comédienne. On vous a vu au cinéma ou dans la série Mafiosa sur Canal+. Pourquoi avoir accepté de tourner dans le feuilleton de TF1 Demain nous appartient?
Parce que déjà, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé à la télévision, que ce format de la quotidienne est un format qui fonctionne très très bien, que les gens n'ont pas forcément le temps de se pencher pendant des heures et des heures sur des séries. En revanche, ils aiment bien des programmes comme cela. Ça leur permet de se fidéliser à des acteurs, à des histoires. Donc moi, j'avais très envie, c'était une chaîne que je connais bien, TF1, avec qui j'ai toujours pris du plaisir à travailler. J'ai retrouvé beaucoup de comédiens avec qui j'avais déjà travaillé, Frédéric Diefenthal, Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, d'autres. Enfin, voilà. Donc, j'avais pas de raison de refuser. Je m'y épanouis pleinement.
Alors, votre personnage Clémentine a été créé par les scénaristes en mai 2018. C'est important. Il pouvait être segmentant, comme on dit. Voilà son histoire à Clémentine. Elle est prof, elle est mariée, elle a une fille. Et puis, elle a une histoire d'amour avec un de ses élèves qui a 20 ans de moins qu'elle. Et ça m'a rappelé quelqu'un, Brigitte Macron. Elle est prof, elle est mariée, elle a une fille. Et puis, elle a une histoire d'amour avec un de ses élèves qui a 20 ans de moins qu'elle. C'est un hasard?
Je sais pas, faudrait demander au scénariste, peut-être pas. Non, en tout cas, on n'a pas le même destin.
Est-ce que c'est une manière de raconter pas la fin ?
C'est pas la première fois. Oui. Il y a eu un grand film avec Annie Girardot. Oui. Qui était tombée amoureuse, d'ailleurs, c'est une histoire
oui.
vraie.
Oui, bien sûr, ouais. Mais il se trouve qu'à l'époque, Emmanuel Macron n'était pas à l'Élysée. C'est totalement
différent.
Non,
Emmanuel Macron n'était pas né à l'époque du
voilà,
film d'Annie
exactement.
Girardot.
Ma question était, est-ce que c'est une manière de faire évoluer les mentalités ?
Bien sûr, mais d'ailleurs, moi, au départ, quand on m'a approchée pour la série, et puis quelques mois plus tard, on m'a appelée pour me dire, voilà... le rôle qu'on a écrit pour toi, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oh là, comment est-ce que ça va être
perçu
par le public. Et puis finalement, j'étais extrêmement surprise de voir à quel point quand même les mentalités changent, notamment chez les jeunes. Alors après, je me suis dit, bah, c'est normal, parce qu'en fait, quand on est jeune, on pense à l'amour. On se pose pas la question de la différence d'âge. On se dit, il faut que l'amour soit vécu. Et donc, on a un public qui est jeune, qui a très très bien accepté cette histoire. Et je pense même que les auteurs ont été un peu pris à leur propre piège, parce qu'ils pensaient arrêter cette histoire, et finalement ils l'ont continuée pendant un certain temps. Elle a plu, et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette histoire, et il y a beaucoup d'adultes qui ont à un moment donné dans leur vie ont été amoureux ou amoureuses de leur professeur.
Et si j'ai bien suivi, vous deviez partir pour 2 mois, finalement on vous a fait un CDI. Vous êtes partie pour la saison, c'est ça ?
Je suis partie pour la saison, et puis en ce moment, on est sur une diffusion d'une intrigue qui est autour de mon personnage, donc je suis très heureuse de ce qu'on me donne à jouer.
Valérie Carcenti, votre personnage de Liliane est complètement déjanté, elle a été droguée aux antidépresseurs, elle a été alcoolique, elle organise des partous chez elle. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire de nouveau cette saison ?
Ne vous inquiétez pas. Bon. On va trouver.
Et juste un mot sur Emma dans Scène de ménage, la comédienne Anne-Elisabeth Blateau qui l'incarne, a fait parler d'elle cette semaine. Elle a été placée en garde à vue dans la nuit de jeudi à vendredi. Des pompiers sont allés chez elle à 4h30 du matin, appelés pour un traumatisme crânien. Finalement, c'était pas grave. L'actrice, qui était en état d'ivresse, est entrée dans une grosse colère. Elle a eu un comportement violent vers les pompiers. Elle a tenté d'en étrangler un. La police a été appelée en renfort. La BAC, elle les a traités de nazis. Depuis, Anne-Elisabeth Blateau, il faut le dire, a été libérée. Elle s'est excusée publiquement. Question simple, est-ce que vous avez pu lui parler depuis cet incident ?
Non, je lui ai laissé un message, évidemment, très tendre, mais je n'ai pas pu lui parler. Je pense qu'elle se repose et elle se remet de ça. Voilà, c'est quelqu'un d'Anne-Elisabeth d'extrêmement sensible, d'extrêmement fragile aussi, et qui peut avoir ce genre d'excès... voilà, qui se retourne toujours contre elle, contre les autres. Elle s'en est excusée, mais contre elle aussi.
Il y a toujours une polémique avec les séries, c'est presque fait exprès. Un mot sur la petite polémique dans la ville de Sète. Vous avez suivi ça, Linda Hardy ?
Mais dites-moi.
Ah ben, vous n'êtes pas au courant. Il y a un galeriste, Martin Bèze, il s'appelle BEZ, qui n'est pas content. Il a une galerie d'art à côté de la boutique officielle de la série. Il a mis une pancarte DNA. Ça veut dire « Demain nous appartient », ça suffit. Halte aux fossoyeurs de la culture et du bien vivre au quotidien à Sète. Que lui répondez-vous ?
Ben, je lui réponds que je comprends que parfois, c'est vrai que, alors il y a eu récemment des séances de dédicace organisées dans cette boutique, boutique ancien restaurant qui servait pour la série, qui s'appelle le Spoon, et que c'est l'émeute. Absolu.
Wow.
Mais vraiment. C'est-à-dire que vous voyez des photos et vous dites que c'est juste pas possible. Enfin, la série suscite un engouement très très important. Maintenant, il est vrai que DNA a apporté une forme quand même de...
reconnaissance à la ville de
Sète. De reconnaissance à la ville. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Sète pour visiter les studios, pour voir les comédiens dans la rue ou dans les restaurants. Et aujourd'hui, l'immobilier, à mon avis, à Sète, s'en porte très bien aussi. Peut-être que ce cher monsieur reçoit, ou en tout cas des touristes, des gens qui achètent ces tableaux et qui font aussi partie du public de Demain nous appartient.
Europe 1. Vos invités ce matin, Philippe Bondel, sont les comédiennes Valérie Carcenti et Linda Hardy. On les retrouve juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Culture Média jusqu'à 11h avec vos invités. Valérie Carcenti, une bonne ambiance en ce studio. Valérie Carcenti qui est votre invitée. Elle joue dans Scène de ménage sur M6 et sera dès demain la présidente du Festival de la Fiction de La Rochelle qui commence donc demain. Avec nous également Linda Hardy, comédienne dans la série Demain nous appartient sur TF1.
Et Linda Hardy également a une autre actualité. Vous allez faire partie de la saison 10 de l'émission Danse avec les stars qui démarre samedi 21 septembre. D'où votre tenue que les gens peuvent voir. Vous êtes venu en tenue de sport. sportive. Vous allez à l'entraînement là maintenant.
Oui, parce qu'à 10h30, je commence les entraînements. Ouais.
Vous pouvez nous voir sur le site europe1.fr. Pourquoi avoir accepté l'émission? Vous étiez obligé parce que vous êtes sur TF1?
Non, pas du tout. Bah, oh. Si vous imaginez, si tous les comédiens de TF1 étaient dans Danse avec les stars,
non, on leur demande peut-être
pas. On serait
obligé
de faire un Danse avec les stars toutes les semaines.
Non, est-ce que vous avez hésité ou pas?
Non, j'ai pas hésité d'abord parce que je suis la saison depuis très longtemps. J'ai trouvé que ça tombait à un bon moment voilà, dans mon parcours.
Mais vous avez envie de faire plaisir aux gens qui regardent ou pas?
Mais parce j'ai toujours j'ai... envie de. En tant, quand on est comédien non, que, attendez, ou qu'on attendez. Est danseur, on a envie de faire plaisir aux gens qui nous regardent.
Évidemment, c'est, mais c'est j'ai retrouvé une interview de vous, parce que je ne pose pas les questions gratuitement, en travaillant, je trouve une interview de vous dans 20 minutes du 6 mai dernier. J'ai toujours pris plaisir à regarder Danse avec les stars, dites-vous, mais je n'ai jamais dansé de ma vie, c'est donc vrai. Je ne sais pas si ça sera une bonne nouvelle pour les téléspectateurs.
Ah oui, oui, mais bon, au moins ils vont rigoler.
Ah,
ah mais c'est ça l'idée. Non mais on n'est pas là que pour faire des choses sérieuses. Là, je sors d'une intrigue dont Demain nous appartient, où il m'arrivait des choses absolument dingues. Ouais. Hyper sérieuse. Là, je vais m'amuser un petit peu, prendre du plaisir. Je vais aussi, j'ai envie de m'attaquer à cette discipline qu'est la danse pour travailler sur mon corps. Moi, je suis quelqu'un de très cérébral. Je dis à un moment, je me dis ça, c'est bon. Là-haut, il se passe un peu trop de choses, il va falloir redescendre tout ça. Et puis, je suis un peu contrôlante de nature. J'ai un peu de mal à lâcher prise. J'ai du mal à faire confiance. Et donc, j'espère que mon partenaire va m'aider à tout ça et que je vais grandir au travers de cette expérience.
Alors, vous allez pouvoir vous parler toutes les deux, parce que sans le savoir, je précise que vous ne vous connaissiez pas avant d'arriver dans ce studio. Valérie Carcenti vous a dit dans une interview que vous aviez fait de la danse classique quand vous étiez enfant, mais que c'était une horreur.
Ah, oh là là, c'est vieux ça.
Vous avez dit que ce n'était que de la contrainte, de la discipline, de la douleur pour donner envie aux petites filles de fermer leur corps. Il n'y a pas mieux, j'ai haï cela.
C'est
fin
vrai.
De citation.
C'est
interview
vrai.
De vous en 2016. Oh
ouais, alors que j'adore danser. Hein. Ouais. J'adore danser. Non, non, j'ai détesté ça, petite fille. Et en plus, j'avais mon frère qui finissait son cours de judo, mon frère aîné, qui finissait son cours de judo un peu avant moi. Et il me regardait danser avec un air, mais il était atterré. Il regardait moi, mon pied qui était tordu, il était atterré. C'était atroce ces cours de danse. Et au final, l'année d'après, mon frère a pris ses premiers cours de danse qui l'ont emmené quand même à l'Opéra de Paris, en jeune danseur. Et moi, j'ai fait du judo pour me
D'accord.
défendre.
Et oui, on vous a vu aux Jeux Olympiques. Non, je décode. Autre actualité pour vous, Valérie Carcenti, vous serez la présidente du jury de la 21e édition du Festival de la fiction de La Rochelle qui démarre demain, c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre. Qu'est-ce qu'on va y voir?
Alors, on va y voir des unitaires, des téléfilms, des séries. 52 minutes, 90 minutes, des séries courtes, des programmes web, voilà, ça c'est nouveau, des séries francophones et des séries européennes. Donc c'est vaste et riche.
Avec plein de vedettes, 35 000 visiteurs l'an dernier.
Ouais,
vous savez combien
public.
Coûte l'entrée?
Ben,
c'est gratuit.
C'est gratuit.
Voilà,
oui.
Donc
ben,
je dis,
oui,
si vous êtes dans le coin de.
C'est la question.
Mais oui,
dans
les enfants ce matin. Ouais. Oui, oui. Non, non, mais c'est une... moi j'y suis déjà allée à ce festival présenter des téléfilms et en voir. Et la particularité, effectivement, c'est qu'il y a un public qui est très présent et qui va voir. Il y a d'ailleurs un prix du public. Et donc, c'est un festival qui est riche, qui a beaucoup de qualités artistiques, beaucoup de propositions et en même temps, très bon enfant. Tout ça se mélange.
Vous y serez, Linda Hardy?
J'y serai samedi. J'arriverai là-bas vendredi soir. J'y rejoins une partie des comédiennes de Demain nous appartient. On fera une séance de dédicace à 11h.
Dis donc, on sent
l'émeute.
On sent l'émeute. Alors, je vais citer, je ne peux pas tout citer. Il y aura 5 fictions événements qui vont être présentés par les chaînes en avant-première. Il y aura Un homme ordinaire d'M6 avec Arnaud Ducré, Émilie Dequesne. Mytho sur Arte avec Marina Hans, Mathieu Demy. Le bazar de la charité, la fameuse série événement de TF1 avec Audrey Fleurot, Gilbert Melki, Balasco, Antoine Duléry. Et Les Sauvages sur Canal Plus avec Marina Foïs et Roche Dizem. Dis donc, ça fait beaucoup. Je voulais juste un mot avec vous, Linda. Vous avez été mannequin.
Oui.
La semaine dernière, on parle de culture également. On a appris la disparition du grand photographe de mode, Peter Lindbergh.
Oui.
Vous aviez travaillé avec lui.
Oui.
Quel souvenir vous en gardez?
Bon, j'en garde un merveilleux souvenir. Peter, c'était quelqu'un d'une extrême gentillesse, d'une très, très grande classe avec ses mannequins. D'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup de photographes sortent avec des mannequins et lui avait des femmes de son âge. Il a été marié, je crois, une ou deux fois. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui, j'avais 23 ans. C'est un peu le photographe qui m'a permis de devenir le mannequin que j'ai été à cette époque-là.
Bah
parce que j'avais les cheveux longs à l'époque et puis j'ai été bookée pour le Marie-Claire US. Pour faire une série de 8 pages avec lui. Et il m'a dit « Ouais, non mais moi, tu sais, j'aime bien aller chercher un truc un peu différent chez les mannequins et tout ça. Et toi, je te vois bien avec les cheveux courts. » Et donc, C'était Julien Dis qui était l'un de ses coiffeurs attitrés avec Odile Gilbert.
Donnez pas tous les noms, cheveux. Il nous reste 30 secondes.
Et voilà, j'avais cette petite coupe à la garçonne que j'ai gardée longtemps, qui m'a suivie après quand j'ai bossé chez Ardisson. Enfin,
c'est un immense photographe, moi je l'adorais. Et c'était un artiste qui aimait les artistes, il en parlait magnifiquement bien, de la peinture, de la photo, enfin, c'était un immense artiste.
Magnifique hommage imprévu de Valérie Carcenti. Bel hommage de Linda Hardy à Peter Lindbergh. Linda, tous les jours dans Demain nous appartient, c'est sur TF1 19h20. Valérie Carcenti, tous les jours dans Scène de ménage sur M6 à 20h20. Et présidente du jury du Festival de la fiction de La Rochelle qui débute demain. Et je vous prédis une émeute samedi avec une signature.
Et Culture Média, ça continue, Philippe Bordel.
Mais évidemment que ça continue. Après le rappel des titres de 10h, on va parler culture. On va recevoir Bruno Dumont, le réalisateur, pour la sortie de son film Jeanne. Je l'ai vu, une sorte d'ovni cinématographique, je vous dis que ça. Et puis dans les indispensables, on va découvrir les sorties cinéma de ce mercredi, en plus de Jeanne évidemment, et on va tendre une oreille sur la découverte de la comédie musicale de la rentrée, Ghost.
Et c'est dans un instant sur Europe 1.